Bonjour, c'est avec un plaisir renouvelé que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont nous vous remercions. Les messagers du cheval sont de retour après la trêve estivale et nous sommes heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle saison. L'actualité hippique a été riche cet été et ce n'est pas fini. En effet, le week-end dernier, les championnats du monde d'endurance se sont tenus à Samorin en Slovaquie. Et dans deux jours, le championnat du monde d'endurance des jeunes chevaux se déroulera plus près de chez nous, à Nègrepelisse. C'est à côté de Toulouse, ça.
Voilà.
Nous avons donc décidé de vous proposer une émission sur l'endurance équestre que nous avons intitulée « Endurance
équestre ».
Mais dis-moi Virginie, pourquoi deux championnats du monde en l'espace d'une semaine dans une même discipline ?
Tout simplement Michel, parce que le premier championnat à Samorin était un championnat senior qui se courait sur 160 km avec des chevaux de plus de 7 ans. Si l'on regarde l'âge des trois chevaux des vainqueurs, on a Twist Maison Blanche qui est médaillé d'or avec son cavalier et qui a 9 ans. Calandria, la médaille d'argent, est une jument de 10 ans et la médaille de bronze, Waterladon Trader, a 11 ans. Le deuxième championnat, lui, est ouvert aux jeunes chevaux de 7 ans et se court sur 120 km. L'endurance est une discipline dans laquelle, Michel, les chevaux s'expriment sur le tard, contrairement aux courses où ils commencent à courir à 3 ans.
Absolument, c'est tout à fait l'inverse, voilà. Mais alors, tu pourrais nous dire ce qu'il s'est passé donc à Samorin.
Alors, les championnats du monde ont vu la victoire de, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Jaume Ponti Dax ou Dash, médaille d'or. Alex Luque Moral, médaille d'argent, tous les deux pour l'Espagne, et du Cheikh Nasser El Khalifa pour le Bahreïn, qui est médaille de bronze. Donc les trois champions ont parcouru 160 km en moins de 6h50, en sachant qu'il n'y a qu'une seconde entre les deux premiers, et seules 3 secondes qui séparent le premier du dernier, ce qui est quand même
absolument
extraordinaire.
Hein, oui, tout à fait, oui.
Donc au classement par équipe, l'Espagne s'empare de la médaille d'or et Cocorico Michel, la France est médaille d'argent. Grâce à Alain Léon et Spirit de Cruz, Julien Lafort et Sherazade Kabira, Laetitia Gonsalves et Tam Tam Toke, ainsi que Julien Goaché et Amélia Duquerou. Quant à la médaille de bronze, elle revient aux Pays-Bas.
Alors, je vais suivre ta logique, Virginie, avant de continuer. Cocorico ! Alors, revenons un peu sur l'histoire de l'endurance. De tout temps, les chevaux ont été testés sur les courses de fond. Les peuples cavaliers, comme les Bédouins ou les Mongols, demandaient à leurs chevaux d'aller vite et loin. La vitesse n'apparaissait que sous forme d'attaque courte sur lequel les cavaliers fondent sur l'ennemi et disparaissent, par exemple, comme les peuples arabes ou les Indiens des plaines. C'était vraiment très rapide. Pendant la guerre de sécession, l'armée a utilisé les chevaux de façon intense. Donc la guerre de sécession, c'est au 19e siècle.
Voilà, c'est aux États-Unis.
Aux États-Unis, bien sûr. Les courses de résistance pratiquées par toutes les armées étaient une excellente préparation au service des reconnaissances. C'est en 1866 que sont relevées les premières reconnaissances d'officiers pour l'armée française. Dans différents pays, les courses de résistance doivent suivre un itinéraire indiqué. Elles sont destinées à tester la résistance des chevaux jusqu'à former des chefs de troupes à gérer les forces de leur monture et font l'objet d'études approfondies. En 1874, Paris-Varsovie, soit 1500 km, est achevé en 15 jours par un hussard hongrois. Et en 1892, Berlin-Vienne, 578 km en 3 jours. 200 concurrents prennent le départ. Alors continuons, en 1882, en France, les courses de résistance font figure de sport national. Mais elles ne sont pas toujours bien gérées. Elles seront même interdites en 1884 suite à l'épuisement de certains escadrons qui rendirent impossibles les manœuvres d'automne avant de reprendre en 1889 encadrées par un règlement. En 1901, une jument attelée à une voiture légère parcourt 302 km en 24 heures. Dis donc.
Je crois que c'est un record,
hein, qui n'a fille, jamais été battu. Ah oui, oui, bravo, bravo, bravo la fille. Et en 1902, le raid Bruxelles-Ostende rassemble 61 cavaliers et montures. Mais avant de revenir sur l'endurance moderne, nous allons écouter, en hommage au champion d'endurance espagnol, quelques mesures du concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo. Vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Messagers du Cheval. Alors Virginie, quand est née l'endurance moderne et est-ce qu'on peut situer l'endroit où ?
Alors sûrement aux États-Unis. Hein, les Américains sont vraiment les précurseurs de l'endurance moderne. N'oublions pas qu'ils ont créé ce service postal, le Pony Express, où les cavaliers traversaient les États-Unis au grand galop de leurs chevaux. Donc la Davis Cup est directement inspirée de cette tradition. C'est une course qui a été longtemps considérée comme l'une des plus difficiles au monde et qui a été créée en 1955 par un homme d'affaires du nom de Wendell Robey, décidé à prouver aux sceptiques que les chevaux du XXe siècle sont capables de fournir les mêmes efforts que leurs ancêtres au XIXe siècle. Il lance alors l'idée d'une course de 100 miles, soit 160 km, à travers les montagnes de la Sierra Nevada. Monté sur son cheval Bendos et accompagné de 4 autres cavaliers, il relève le pari de relier Taos City à Auburn. Le tracé emprunte l'un des derniers tronçons de la Western States Trail qui va de Salt Lake City à Sacramento. Ils arriveront tous à bon port sauf un qui abandonnera en cours de route. La Western Trail Ride, plus connue sous le nom de Davis Cup, était née. Elle a lieu chaque année fin juin ou début août, le week-end le plus proche de la pleine lune.
Pourquoi ?
Eh bien, tout
la
simplement.
La pleine lune, je suppose. Pourquoi la pleine lune ?
Tout simplement, Michel, parce que le départ est donné à 5h15 le matin, en pleine nuit donc, et que le dernier cavalier arrive souvent plus de 15 heures plus tard, soit bien après le coucher du soleil. Et comme tout le monde le sait, hein, les nuits de pleine lune, eh bien, il y a beaucoup plus de lumière, elles sont beaucoup plus claires. Les cavaliers donc vont arriver toute la nuit, car l'objectif est de boucler le parcours en moins de 24 heures. Donc on est très loin, comme tu peux le voir, du parcours de Saint-Morin, hein, qui était extrêmement plat et favorisait la vitesse. Donc sur la Davis Cup, il y a beaucoup de dénivelé, puisque les concurrents vont franchir 5000 mètres de dénivelé en montée et plus de 6700 mètres en descente, tout cela sous une température pouvant atteindre 40 degrés.
Mais c'est fou. Alors tout le monde ne finit pas la course, j'imagine.
Ah non, en effet, ils sont environ 200 à prendre le départ et seule une petite moitié finira dans les temps.
Alors, est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce qu'il y a une sélection?
Alors, pour pouvoir s'inscrire, il faut avoir plus de 12 ans, justifier d'avoir fait plus de 450 km sur des courses d'au moins 80 km. Et il faut savoir aussi que la plupart des participants sont des amateurs.
Revenons en France. En 1975, les 130 km de Florac sont organisés, remportés en 6h25 par Jean-Marie Fabre sur Persic, l'étalon arabe qui va marquer l'élevage des chevaux d'endurance, puisqu'il sera sacré meilleur reproducteur européen de chevaux d'endurance.
J'en profite pour t'interrompre, Michel, et rappeler qu'aujourd'hui, c'est le cheval arabe qui est reconnu comme meilleur cheval d'endurance de par ses qualités physiques exceptionnelles, notamment au niveau de la récupération cardiaque, et qui donc domine cette discipline.
Puis-je mettre mon petit grain de sel?
Je t'en prie.
Il y a aussi le cheval criollo, qui paraît-il est un très cheval de polo, mais très grand cheval d'endurance, quoi, absolument increvable. Et reprenons le cours de l'histoire. Un an plus tard, en 1976, chez nous, à Rodez, sont organisés, j'oserais dire, les fameux 100 km de Rodez. Créée à l'occasion du bicentenaire de notre ville, la course a été suggérée par notre cher Jean-Yves Bonnet au directeur du Haras de l'époque, Luc de Montal. C'est Denis Le Tartre qui l'emporte sur Barol en 4 heures. En décembre de 1976, à l'occasion du Salon du Cheval de Paris, le Comité National des Raids Équestres et d'Endurance voit le jour. L'Endurance va chercher sa place parmi les autres sport équestre, tout en préservant son indépendance. De nombreuses épreuves sont créées, mais beaucoup d'erreurs sont commises qui entachent la discipline, tant du côté de l'organisation que de la gestion des chevaux par des cavaliers inexpérimentés. Ça, l'endurance, il faut être cavalier expérimenté.
Voilà, hein. C'est bien le problème, souvent, oui. C'est que les gens ne...
Enfin, surtout
à l'époque,
oui,
n'étaient pas préparés.
Voilà. Dès lors, les courses qualificatives vont être créées et des prix de meilleures conditions attribués. Le sport se codifie et se structure également au niveau européen par le biais de, alors comment on dit, l'ELDRIC, hein, l'European Long Distance Ride Conference, en 1979. En 1984, la FEI organise le premier championnat d'Europe à Florac, qui voit la victoire de la France par équipe. Le premier championnat du monde est organisé en 1986 en Italie, à Patroni del Vivaro. Depuis, le sport n'a cessé d'évoluer vers plus de professionnalisme et de sécurité. Il attire beaucoup d'amateurs et de professionnels. Néanmoins, il faut savoir qu'en France, contrairement aux autres disciplines hippiques, les vainqueurs, cavaliers, propriétaires et éleveurs ne touchent pas de primes financières, d'où la difficulté de conserver les bons chevaux dans notre pays. Mais ça, c'est un peu un mal français, hein, de laisser filer tout ce qui est de toutes nos excellences.
Oui, mais dans certaines disciplines, les chevaux s'achètent. Enfin, les cavaliers surtout touchent des primes. Hein. C'est le cas en jumping, c'est le cas en course.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors que, comme me le disait il n'y a pas très longtemps un éleveur, ben nous, à part un flot et une poignée de main, on n'a rien. Donc, c'est toute la difficulté de les éleveurs, il faut bien qu'ils vivent et donc ils sont obligés de se séparer
de leurs
bons chevaux quand on leur donne un prix substantiel.
Et dans le monde, juste une petite question comme cela, les chevaux français sont très réputés, les chevaux d'endurance.
Oui, tout à fait. Nos élevages sont très performants et ça a été encore prouvé à Saint-Morin.
Voilà, c'était encore prouvé à Saint-Morin. Et voilà donc notre incursion dans l'histoire de l'endurance qui prend fin. Mais il y aurait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et peut-être pourquoi ne referions-nous pas une émission en avançant un peu sur ce thème.
Tout à fait, parce que nous n'avons pas développé le type de course, comment elle se déroule, puisqu'il y a des contrôles vétérinaires, etc. etc. Donc effectivement, ce sera l'occasion de faire une autre émission, Michel.
Eh ben écoute, moi je suis tout à fait partant. Mais ceci dit, aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette émission de rentrée. N'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions sur notre site. Alors, je vous le conseille parce qu'il est beau, notre site. Il faut aller sur notre site, Le Messager du Cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. Et bien sûr, un grand bravo à tous les chevaux d'endurance, d'obstacles, de balades tranquilles aussi. Ciao, ciao.